Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de notre mini-série sur le modèle des trois planètes. Je suis Isabelle Côté en compagnie de mes collègues Alexandra Vincent et Simon Lapierre. Donc, dans le premier épisode, on vous a présenté le modèle basé sur les travaux de Marian Hester et on vous a présenté une situation familiale. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut la peine d'y retourner pour suivre un peu le fil conducteur de notre mini-série. Dans notre premier épisode, dans notre épisode d'aujourd'hui, en fait, la famille va atterrir sur la planète 1, la planète violence conjugale. Simon, je vais t'interpeller. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est la planète violence conjugale?
Oui, bien brièvement, en fait, la planète violence conjugale, elle regroupe toutes les organisations qui ont comme mandat de travailler ou d'intervenir spécifiquement sur la problématique de la violence conjugale. Donc, on y retrouve, par exemple, le système de justice criminelle qui intervient évidemment dans d'autres contextes, mais où il y a quand même des infractions dans le code criminel qui des accusations peuvent être portées dans un contexte de violence conjugale. Et on retrouve aussi sur cette planète-là les organismes qui travaillent davantage auprès des victimes, qu'on pense aux maisons d'hébergement, au CAVAC, par exemple, et également les organismes qui travaillent plutôt auprès des conjoints violents, là, donc tous les organismes d'intervention là, spécialisés en violence conjugale, mais qui travaillent auprès des conjoints. Donc, c'est un peu les organisations qu'on retrouve sur la planète violence conjugale.
Donc, merci. Et là, dans notre scénario qu'on a développé, ou en tout cas, on vous a mentionné les grandes lignes dans l'épisode 1, on se rappelle, les policiers sont interpellés, les policiers arrivent au domicile. On se rappelle aussi qu'il y a eu menace de mort, séquestration et voie de fait. Simon, qu'est-ce qui se passe sur la planète 1 quand les policiers arrivent?
Bien, en fait, c'est un départ hein, pour cette famille-là, l'intervention policière. Les policiers, évidemment, vont d'abord évaluer la situation à laquelle ils sont confrontés ou à laquelle ils font face et vont d'abord déterminer est-ce qu'il y a potentiellement des infractions criminelles qui sont présentes dans cette situation-là, parce qu'on sait que les policiers interviennent en fonction d'infractions prévues dans le code criminel.
Donc, il n'y a pas d'infraction violence conjugale.
Non, il n'y a pas d'infraction dans le code criminel. Actuellement, on ne criminalise pas la violence conjugale, mais on criminalise vraiment certains actes qui peuvent être commis dans un contexte de violence conjugale. Donc, c'est plutôt ça qu'on criminalise ici au Canada, et c'est à partir de ça que les policiers vont intervenir. Donc, dans la situation qu'on a ciblé ici, il y a des actes criminels qui ont été commis, on parle de voies de fait, on parle de menaces, on parle de séquestration, et donc les policiers devraient intervenir là, de façon sérieuse dans cette situation-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont procéder ici à l'arrestation de monsieur et ils vont aussi s'assurer à court terme que la conjointe est en sécurité, que la femme est en sécurité, et ils vont probablement lui proposer de s'adresser à une maison d'hébergement, vont la référer à une maison d'hébergement pour obtenir possiblement un hébergement, mais sinon aussi du soutien à l'externe. Suite à ça, le dossier, les policiers vont faire leur enquête. Le dossier va être soumis au DPCP, à la Direction des poursuites criminelles et pénales, qui, eux, vont porter des accusations pour les infractions qu'on a mentionnées il y a quelques instants. Et ça, bon, ça va suivre son cours par la suite.
Ça peut être long quand même.
Et ça peut prendre effectivement un certain temps là, pour que ça suive son cours. Par contre, dans cette situation-ci, monsieur va être rapidement libéré avec certaines conditions, dont une condition qui va être un interdit de communiquer avec madame. Donc, on va ordonner à monsieur de ne pas communiquer avec sa conjointe. Là, et ça va faire partie de ses conditions de libération. Et les policiers, en vertu d'un protocole, vont également signaler la situation de l'enfant qui était quand même présent lors de l'incident à la Direction de la protection de la jeunesse. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Là, sur.
Ils doivent le faire.
Ils doivent le faire. Effectivement, il y a des protocoles dans la majorité des régions qui prévoit vraiment un signalement systématique là, par les policiers lorsqu'ils interviennent dans une situation de violence conjugale. Et on va y revenir lorsqu'on va parler évidemment de l'intervention sur la planète 2, là, qui est la protection de la jeunesse.
OK. Fait que là, dans cette situation-là, dans notre scénario, il y avait quand même des infractions criminelles de commise. Si je peux me permettre de te relancer, Simon, s'il n'y avait pas eu d'acte criminel, est-ce qu'il y aurait eu arrestation? Est-ce que...
Ben non, effectivement, les policiers interviennent vraiment en fonction en fonction du code criminel. Hein. C'est ce qui régit l'intervention policière. Donc, ça ne veut pas dire que les policiers ne seraient pas intervenus s'ils avaient jugé qu'il n'y avait pas d'acte criminels qui avaient été potentiellement commis. Ils auraient pu parler à monsieur, parler à madame, peut-être demander à monsieur d'aller prendre de l'air ou d'aller prendre une marche, mais il n'y aurait certainement pas eu d'arrestation et il n'y aurait pas, le dossier n'aurait pas été soumis au DPCP et il n'y aurait pas eu d'accusation qui aurait été portée parce que, ben, lorsqu'il n'y a pas d'infraction criminelle dans ce contexte-là, c'est un peu limité ce qu'ils peuvent faire, même si dans certains cas, les policiers vont constater qu'ils sont probablement face à une situation de violence conjugale. Si cette situation-là de violence conjugale ne comporte pas d'acte criminel, l'intervention policière et par la suite l'intervention du système criminel va être très, très limitée dans ce contexte-là.
OK. Et là, comme tu as nommé, Simon, en fait, les policiers signalent la situation à la DPJ. Le signalement va être retenu. L'intervenante attitrée au dossier va recommander fortement à madame de se rendre en maison d'hébergement, ce qu'elle fait dans notre scénario, mais on revient à la DPJ sur la planète 2. Pour l'instant, on reste encore sur la planète 1. Alex, qu'est-ce qui se passe pour madame et l'enfant quand ils vont en maison d'hébergement?
Bon, ils arrivent en maison d'hébergement, ils sont accueillis comme victimes en général. Bon, la mère comme victime de la violence, l'enfant généralement comme une co-victime ou l'enfant qui a été exposé aux événements qui ont mené à l'intervention policière. Les maisons d'hébergement adhèrent à, bon, certaines ont même une charte là, sur l'intervention féministe, donc c'est assez clair qu'on a une analyse genrée de la problématique de la violence conjugale. On va reconnaître que l'agresseur est l'unique responsable de la violence. On va reconnaître que madame, bon, en est victime. On va aussi reconnaître et aborder assez rapidement comment est-ce que la violence conjugale a affecté ou pas la relation mère-enfant, peut-être offrir des services à ce niveau-là. Et on va soutenir la mère dans ses démarches et sa reprise de pouvoir. Donc, ça va inclure l'interaction avec les diverses planètes, éventuellement. Et,
qui doit être un défi pour les maisons d'hébergement,
oui.
Comme on va le voir.
Oui. Et bien, on fait des scénarios de protection, là, que la femme retourne avec le conjoint ou qu'elle quitte dans un nouvel appartement à la fin de son séjour ou que le séjour soit interrompu là, pour X raisons. En général, là, on essaie de que la famille quitte et retrouve un certain pouvoir sur sa situation et un sentiment de sécurité.
OK. Pour les personnes qui nous écoutent puis qui connaissent peut-être pas le vocabulaire, là, brièvement, c'est quoi un scénario de protection? Ça a l'air de quoi?
Oui, ben c'est quelque chose qui doit être fait en connaissance de, en général, ce qu'on appelle, on peut souvent parler du schéma de comportement du père violent. Mm-hmm. Donc, l'intervenante est généralement à l'étape d'élaborer avec la mère, à l'étape d'élaborer des scénarios de protection, on doit connaître que monsieur a fait déjà, ce qu'il est capable de faire, ce qui empêche de faire la conjointe, comment il se comportait aussi avec l'enfant. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de voir très pratico-pratique qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette famille-là soit en sécurité, advenant toutes sortes d'hypothèses, d'éventualités qu'on sait qui sont possibles, comme que le père violent ait des accès à l'enfant. Donc, comment est-ce qu'ils vont se rendre? S'il se passe quelque chose, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Et aussi du côté de la mère, qu'est-ce qu'elle peut faire pour sécuriser ses allées ou garder son adresse confidentielle, se sentir en sécurité au travail, avoir des gens qui sont peut-être informés de bon, tout ça. Fait que je ne veux pas trop m'étaler parce que ça peut être très grand comme travail, mais en général, on s'assoit avec la mère. On regarde comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit en sécurité.
Ouais.
Puis souvent, ces mères-là ont déjà leur propre truc.
Mm-hmm.
Ouais. Donc, c'est important d'aller vraiment à son rythme, mais aussi avec ce qu'elle a nous fourni comme information. On ne peut pas avoir une feuille avec une liste de scénarios de protection qui va convenir à tout le monde.
C'est comme un travail complémentaire, en fait, là, avec ce qu'elle fait déjà, puis ajouter. Là, dans notre scénario, on va s'imaginer que monsieur consulte un avocat qui lui recommande fortement d'aller dans un organisme pour conjoint violent pour démontrer au juge là, qu'il fait les efforts nécessaires pour cesser ses comportements violents. Donc, toujours sur la planète 1, on retrouve les organismes qui offrent des services aux conjoints violents. Dans notre scénario, monsieur se rend dans un organisme, les intervenants accueillent monsieur. Simon, qu'est-ce qui se passe avec lui dans cet organisme-là?
Bien, d'abord, monsieur ici est dans un organisme qui travaille auprès des conjoints violents, donc qui est un organisme spécialisé en violence conjugale. On a d'ailleurs fait un épisode il y a quelques mois sur l'intervention auprès des conjoints violents. Ça vaut peut-être la peine d'aller réécouter l'épisode, mais ça vaut aussi la peine de préciser qu'on est vraiment dans un organisme qui travaille auprès des conjoints violents. On n'est pas dans de la gestion de la colère ou des émotions, on n'est pas dans de la croissance personnelle, on est vraiment dans l'intervention en violence conjugale.
On n'est pas dans l'acupuncture non plus, on a vu ça cette semaine
oui.
Dans l'actualité.
Non, effectivement. On est vraiment dans un organisme qui est spécialisé en violence conjugale et qui va travailler sur la responsabilisation. Donc, comment ça va se passer? L'organisme va d'abord évaluer la situation de monsieur, ses comportements. C'est important aussi de dire que même si l'organisme travaille auprès de monsieur dans une perspective de responsabilisation, l'objectif est toujours aussi d'assurer la sécurité des victimes. Donc, ça devient l'objectif quand même numéro un de ces organismes-là, c'est d'assurer la sécurité des victimes, mais en travaillant de leur côté auprès du conjoint violent.
Ce qui est cohérent avec ce qu'on fait sur la planète 1, en fait.
Absolument, et c'est tout à fait cohérent et tout à fait complémentaire à ce qui peut être fait, par exemple, au niveau du système de justice et au niveau des maisons d'hébergement. Et par la suite, l'intervention qui va être privilégiée est généralement une intervention de groupe qui va mettre l'accent sur, ben, d'une part, l'arrêt d'agir. Qu'est-ce que monsieur peut faire? Comment il peut se donner des moyens pour ne pas passer à l'acte, pour ne pas avoir de comportement violent, mais aussi vraiment dans une perspective de responsabilisation à plus long terme par rapport à ses comportements violents. Donc, on va vraiment viser à ce que monsieur reconnaisse ses comportements, reconnaisse sa part de responsabilité, reconnaisse que c'est un choix qu'il fait et puisse en arriver éventuellement à s'engager dans une démarche de changement qui va mener à un arrêt là, de la violence. Chez monsieur, mais pour assurer la sécurité, là, comme je le disais, de la conjointe, puis éventuellement des enfants aussi. Et c'est très clair dans ces organismes-là, où on est toujours sur la planète 1, que la violence conjugale est quelque chose d'inacceptable là, et qui doit cesser.
OK. Là, on a quand même beaucoup parlé de monsieur et madame sur la planète 1. On n'a pas parlé de l'enfant. Il est où l'enfant sur la planète 1?
Mais c'est un peu une des limites de la planète 1. La planète 1, on l'a vu, est très avancée sur la question de la violence conjugale. C'est son objectif, c'est son mandat. Par contre, l'enfant est un peu invisible sur cette planète-là et parfois carrément invisible, parfois il est là. On y reviendra, mais par exemple, l'intervention en maison d'hébergement, des services vont être aussi offerts aux enfants, mais les enfants sont vus comme des co-victimes ou parfois comme des victimes secondaires de cette violence-là. Donc, les enfants sont beaucoup moins centraux sur la planète violence conjugale par rapport, par exemple, à ce qu'on va voir sur les deux autres planètes où l'enfant occupe une place beaucoup plus importante. Je pense que là où c'est vraiment évident, là, la question de l'invisibilité de l'enfant sur la planète violence conjugale, c'est vraiment au niveau de l'intervention au sein du système de justice pénale. Par exemple, les policiers qui interviennent vont souvent peut-être documenter la présence de l'enfant, mais vont souvent faire très peu d'interventions auprès de l'enfant, vont parfois même pas adresser la parole à l'enfant lors de leur intervention. Ils vont vraiment se centrer sur d'abord l'agresseur et aussi par la suite assurer la sécurité de la victime. Et lorsqu'il y a des procédures, ensuite des accusations qui sont portées, mais généralement, c'est uniquement la femme qui va être perçue comme une victime de cette violence-là. L'enfant ne sera pas perçu comme une victime de la violence conjugale ou ne sera pas perçu comme une victime au sein du système de justice, à moins qu'il ait eu des actes de violence là, qui le ciblaient de manière spécifique. Et je dirais que même dans une situation comme celle qu'on a ici, où l'enfant était quand même présent lorsque on pourrait dire que l'enfant et la mère ont été séquestrés, ouais. Il est fort possible que l'accusation de séquestration se concentre uniquement sur la femme, même si l'enfant était présent dans ce contexte-là. Donc, souvent, l'enfant ne sera pas du tout perçu comme une victime ou considéré considérée comme une victime au niveau du système de justice et même au niveau des conditions, par exemple, de remise en liberté. On a vu ici que parmi les conditions de remise en liberté de monsieur, il y avait un interdit de communiquer avec, avec madame. C'est très, très rare que l'interdit de contact va aussi s'appliquer à l'enfant. Donc, généralement, il va s'appliquer uniquement à la femme qui est perçue comme étant la victime dans cette situation-là. Et même parfois, ben en fait, même assez souvent, l'interdit de contact pour la femme va exclure toute communication concernant l'enfant. Donc, on va dire à monsieur, bon, vous avez pas le droit de communiquer avec votre conjointe ou votre ex-conjointe, à moins que ce soit des communications concernant l'enfant. Là, vous pouvez communiquer avec elle parce que ça concerne votre enfant.
Et on peut imaginer que ces hommes-là vont utiliser ça.
Ben, absolument. Donc, on voit, pour moi, c'est un signe que sur cette planète-là, on se déresponsabilise un peu de tout ce qui touche la sécurité des enfants et on dit que ce sera traité sur les autres planètes, la sécurité des enfants. C'est pas à nous de nous positionner sur cette question-là, ce qui est quand même un peu problématique. Et dans certains cas, qui est très problématique. Mm-hmm. Et même au niveau des autres organisations qui sont sur la planète 1, on a parlé des maisons d'hébergement qui offrent effectivement des services pour les enfants, parfois même pour la relation mère-enfant. Il reste que les enfants n'ont pas un accès direct aux maisons d'hébergement. Ils peuvent avoir accès aux services, mais c'est si leur mère pas accès au service ou si leur mère en fait la demande. Donc, même en violence conjugale, les enfants sont comme des deuxièmes victimes ou des victimes secondaires de la violence. Et les organismes pour conjoints violents, c'est un peu la même chose, vont généralement se concentrer sur la relation conjugale. Et on sait qu'au Québec, on a très peu d'organismes pour conjoints violents qui offriraient aussi des services plutôt pour les pères violents, ce qu'on retrouve par exemple dans d'autres provinces comme le programme Caring Dads, par exemple en Ontario, sont très peu développés. Donc, on se concentre plutôt sur la relation conjugale et non sur la relation parentale là, dans les organismes pour conjoints violents. Donc, globalement, c'est une des limites importantes là, sur la planète de violence conjugale que les enfants sont relativement invisibles ou vraiment considérés comme des victimes secondaires sur cette planète-là.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant ce que vous avez nommé Simon et Alex. Puis, tu sais, on souhaite clarifier qu'on vous a présenté une situation précise où les professionnels et les organismes sur la planète 1 ont bien fait leur travail. Et là, on le sait, hein, que ça se passe pas toujours comme ça. Il y a des problèmes parfois importants sur la planète 1. On le sait, par exemple, qu'au niveau des policiers, parfois, ils ont de la difficulté, hein, à reconnaître est-ce que c'est de la violence, est-ce que c'est un conflit, c'est qui l'agresseur principal. Donc, on sait qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. On le sait aussi que les groupes pour conjoints violents ne travaillent pas toujours dans une optique de responsabilisation. Hein. On voit parfois que... Alex et Simon, on a été interpellés dans une situation il y a quelques semaines où l'organisme pour conjoints violents a proposé de la thérapie conjugale dans une situation mm-hmm. où il y avait clairement là, des voies de fait et de la violence conjugale. Donc, ça questionne parfois. On le sait aussi qu'au niveau des maisons d'hébergement, hein, tu sais, c'est les femmes, c'est pas toujours facile de se rendre là, c'est pas facile de vivre dans un milieu partagé avec d'autres. Des fois, il y a un manque de place, hein, fait que un policier peut dire « je vous encourage, madame, à aller en maison d'hébergement », mais ça peut arriver que la maison d'hébergement de la ville où madame réside, elle soit pleine, il n'y a pas de place. Des fois, il faut changer de ville, fait que les femmes, des fois, préfèrent peut-être ne pas y aller. Fait que disons qu'il y a des enjeux et défis, c'est pas toujours parfait, mais de façon générale, ce qu'on vous a présenté, c'est un peu une espèce de cas de figure. Hein, Simon et Alex, autre chose avant de conclure sur la planète 1?
Ça fait le tour.
Je pense que ça fait le tour.
Ça fait le tour?
On va arriver à la planète 2 et 3.
Oui, donc on se retrouve dans le prochain épisode où la famille va atterrir sur la planète 2.